La bombe de Noël. Paul Mallard venait de terminer son instruction primaire et avait obtenu son certificat d'études. Il avait 13 ans, aîné de 5 enfants, c'était le moment pour lui de se mettre au travail et d'aider ses parents. Le père était menuisier, la mère faisait des ménages, sans compter le sien. Pauvreté, honneur, telle était en deux mots la devise de la famille. Paul en outre était chrétien. Non pas comme l'est tout le monde, mais par ce choix du cœur qui s'appelle la conversion. Élève d'une école du dimanche à Montmartre, où il habitait, Paul avait, peu de temps avant le moment où commence notre récit, compris et accepté la grâce de Dieu en Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Quelques jours après la distribution des prix, son père l'avait placé chez un changeur de la rue Montorgueil, près de la Bourse. La place n'était pas brillante, mais c'était un début. Tous les matins, Paul descendait à pied des hauteurs de la butte chère aux Parisiens, emportant dans une serviette d'employé son repas de midi, un peu de viande froide et du pain. Sa journée commençait à 8 heures et finissait à 6 heures du soir. Pour tout dire, le pauvre Paul trouva bien dur pendant ces beaux mois d'été qu'il avait passé les années précédentes chez sa grand-mère, bonne paysanne de Normandie, de rester emprisonné dans cette grande cage à l'atmosphère lourde et accablante qui s'appelle Paris, et d'avoir chaque jour 10 heures à passer, comme les singes du jardin des plantes, derrière un grillage, dans un sombre rez-de-chaussée de la vieille rue Montorgueil. Mais nous avons dit qu'il était chrétien. C'est dire qu'il avait sacrifié ses préférences à la volonté de Dieu, et lui était même reconnaissant d'avoir cette longue course à faire le long des grands boulevards, planté de marronniers et de sycomores. L'imagination aidant, il voyait de la poésie dans ce qu'il appelait plaisamment la forêt de Paris, et les moineaux piailleurs qui la peuplent en si grand nombre représentaient à ses yeux l'élément de liberté et de sauvagerie sans lequel la vraie nature n'existe pas. Maintenant, l'hiver était venu et l'on approchait de Noël. Le patron de Paul s'appelait Monsieur Salomon Lévy. Monsieur Lévy était, comme on dit, serré. Ses employés le voyaient manier l'or toute la journée, mais il ne roulait pas dessus. Un maigre comptable, Monsieur Flachon, au crâne chauve et luisant sous la lumière du gaz, et un garçon de bureau, Lucien, formaient avec Paul tout le personnel de la maison. Monsieur Lévy exigeait d'eux, pour un salaire dérisoire, une ponctualité irréprochable et la plus grande obséquiosité. Quant à la probité, il l'eût demandé sans doute s'il l'avait cru possible, mais il était de ces hommes qui, jugeant autrui à leur propre mesure, ne croient pas à la conscience des autres parce qu'ils n'en ont guère. Il était son propre caissier, et sa vigilance rendait impossible le moindre larcin de ses employés. À franchement parler, les collègues de Paul ne lui inspiraient guère plus de sympathie que le patron. M. Flachon avait la mine d'un vieux renard, et Lucien était un osseur fini. Dès que M. Salomon Lévy avait tourné le dos, ces deux individus commençaient entre eux des conversations abominables où les propos les plus haineux à l'endroit du youtre se mêlaient aux paroles ordurières. Le pauvre Paul en était écœuré. Il ne se mêlait point à ses discours et souvent il se sentait prêt à pleurer quand la verve caustique de ses compagnons se tournait contre lui. Il l'avait affublé du surnom d'Eliassin à cause de sa naïveté qu'il trouvait amusante et ridicule, et qu'il s'efforçait, les misérables, de lui faire perdre par une exécrable initiation aux vices qu'il ne connaissait point. Le retour du patron mettait un terme au supplice de Paul, mais, hélas, il n'en était guère mieux, car il assistait souvent, derrière son grillage, à des actes de piraterie commis en plein Paris sous l'égide des lois. C'était, par exemple, quelques pauvres fabricants, comme il y en a beaucoup dans ce quartier où se fait l'article de Paris, qui venaient présenter ses billets à l'escompte, pressés par le besoin d'un peu d'argent comptant, et à qui l'âpre changeur ne prenait pas moins du 40% sous divers prétextes. Trop peu initié encore aux roueries de la finance pour comprendre l'infamie de l'usure, Paul voyait bien pourtant, à l'éclair de colère impuissante qui luisait dans les yeux du malheureux client, qu'un acte louche et condamnable venait de se passer. « Pour une boîte, c'est une boîte », disait le père Mallard à son fils, quand celui-ci lui racontait le soir quelques tours du patron ou quelques propos des employés. « Mais que veux-tu, mon petit? Nous n'avons pu te caser que là. En attendant, tu apprends un peu de commerce. Et puis, vois-tu, dans notre position, 20 francs par mois, c'est une somme. » Malgré toutes ces misères, Paul n'était pas sans consolation. À 13 ans, il faudrait qu'une vie fût bien sinistre pour être tout à fait décolorée. Et d'abord, il y avait sa famille, et surtout sa sœur Julie, grande fillette sérieuse et sage, bien qu'elle n'eût que 12 ans, une vraie petite femme. Elle aussi s'était convertie à l'école du dimanche. Aussi, l'intimité était-elle grande entre les deux aînés. Le soir, après que Julie avait fait ses devoirs de classe, ils lisaient ensemble la Bible ou quelques bons livres qu'on leur avait prêtés. Et c'était des conversations interminables, souvent fort animées, dont le prétexte était fourni par ce qu'on avait lu. Les cadets, Marie, Louis et Georges, formaient autour d'eux la galerie et subissaient l'influence des deux grands. Le père, sa journée faite, avait l'habitude trop fréquente de s'arrêter chez le marchand de vin pour boire un verre avec les amis, sans trop se griser cependant. Et la pauvre madame Malard, heureuse de n'avoir pas comme tant d'autres ni ivrogne renforcé pour époux, ne lui faisait aucun reproche. Ses travaux d'ailleurs l'absorbaient. Elle ne comprenait pas grand-chose aux idées religieuses de ses enfants. En vraie fille de Paris, elle n'avait jamais été pratiquante et, depuis son mariage, n'avait guère franchi le seuil des églises. Mais elle se félicitait, in petto, d'avoir autorisé ses enfants à fréquenter cette espèce de chapelle en boutique, comme on l'appelait dans le quartier, où des dames et des messieurs très aimables leur apprenaient à chanter des cantiques et à prier Dieu, ce qui, pensait madame Malard, ne peut jamais nuire à personne. Le dimanche était pour Paul et Julie le meilleur jour de la semaine, cela va sans dire. Quand il faisait beau, ils allaient le matin, quelquefois avec Marie, se promener jusqu'au but de Chaumont. Quand il pleuvait, on restait à la maison où les heures passaient vite. L'après-midi, on allait à l'école du dimanche. Enfants qui écoutaient ces lignes, vous qui avez été élevés avec tant de soin par des parents chrétiens, je ne crois pas que vous sachiez apprécier, que vous puissiez aimer votre école du dimanche, comme le font ces petits païens de Paris, qui, intéressés aux choses merveilleuses que raconte l'Évangile, reviennent régulièrement chaque dimanche sans qu'on les y contraigne, uniquement parce que ce lieu est pour eux le seul coin d'idéal, et cette heure le seul moment de la semaine où brille sur eux un rayon du ciel, et parce que leur âme ignorante et avide trouve là seulement cette pâture dont nul être humain ne peut se passer sans mourir. Au commencement de décembre, le directeur prit Paul à part et lui annonça qu'il l'avait choisi pour une tâche importante la veille de Noël. C'est lui qui, devant l'arbre illuminé, devait réciter l'histoire de la nativité racontée dans les évangiles. Ce récit est long, il fallait donc l'apprendre soigneusement pour le répéter mot à mot. « C'est toi qui es mon meilleur élève », ajouta le directeur, « et je compte sur toi pour faire honneur à l'école. » Paul promit et se mit à la besogne, assez facile en somme, sa mémoire était excellente. Mais il ne se doutait guère de quelle façon se passerait pour lui cette veille de Noël. 8 jours avant le 25 décembre, M. Salomon Lévy descendit de bonne heure de l'entresol qu'il occupait au-dessus de son bureau. Paul était à son poste, mais les deux autres employés n'étaient pas encore arrivés. Le patron constata leur absence par un juron. « Toujours en retard, c'est paresseux-là, grommela-t-il, et il faut que ça change. » M. Flachon et Lucien ne tardèrent pas à arriver. Tous deux avaient l'œil allumé et le nez rougi de gens qui viennent de prendre de l'alcool. Ils venaient en effet de chez le Mastroquet d'en face, où ils avaient bu le coup de vin blanc matinal. « Ah, vous voilà, vous autres !» cria M. Lévy en les apercevant. « Sinon toujours la même chose. Je ne veux pas de pochard chez moi, entendez-vous ? Je renonce à reproduire les expressions exactes dont se servit le patron. » Les deux compères ne répondirent pas tout d'abord. Ils s'assirent en silence et firent semblant de se mettre au travail. Mais M. Lévy était de plus mauvaise humeur ce jour-là que de coutume. Il continua à invectiver ses employés jusqu'à ce qu'enfin le garçon de bureau leva la tête. « Eh bien quoi, voilà bien du train pour pas grand-chose. A-t-on pas le droit de boire un coup comme tout le monde ? Après tout, votre boîte n'est pas si amusante, et ce ne sera pas difficile d'en trouver une autre. « Ah, c'est comme ça !» hurla M. Lévy. « Eh bien, je vous mets à la porte, tous les deux. Vous entendez ? Dans 8 jours, vous sortirez d'ici. » « Je vous ferai observer, monsieur, dit le comptable d'un ton calme, que je ne vous ai rien dit, moi. bien que vous m'insultiez depuis un quart d'heure. Ça ne fait rien. Vous ne me plaisez pas, vous, avec vos manières. Et puis c'est dit, je ne reviens jamais sur ma parole. » Le pauvre Paul, pendant cette scène violente, tremblait de tous ses membres. Jamais la brutalité humaine ne lui était apparue si horrible et si crue que dans cette dispute, où des blasphèmes et des injures sortaient de bouches tordues par la haine. Quand le patron fut sorti, les deux hommes donnèrent un libre cours à leur colère. Lucien, surtout, était hors de lui. « Je ferai sauter sa cambuse » cria-t-il en frappant la table du poing. Mais M. Flachon le rappela à l'ordre. « Allons, Lucien, ne dites pas de bêtises. On se contentera de dénoncer le youtre à Drummond de la Libre Parole. Il lui dédiera un bon petit article et nous rigolerons. Mais il ne faut pas parler de faire sauter les gens. C'est pour ton chien de nous mettre à la porte au moment des étrennes. » En parlant ainsi, le comptable cligna de l'œil à Lucien en lui désignant Paul. Cela voulait dire « Si tu as des projets, nous en causerons entre nous, mais méfie-toi du petit. » Paul saisit vaguement ce signe, mais n'y attacha pas une grande importance. La veille de Noël, notre jeune ami apporta son Nouveau Testament au bureau, car la fête de l'école du dimanche devait avoir lieu ce soir-là, et il tenait à dire sans aucune faute le récit évangélique. De temps en temps, quand il avait terminé un bordereau et que l'ouvrage chômait, il ouvrait son livre à la dérobée et lisait. Mais rien n'échappait aux yeux d'Argus de M. Salomon Lévy. Paul vit tout à coup le patron à ses côtés, et avant qu'il eût le temps de cacher son livre, celui-ci le lui prit des mains. « Croyez-vous que je vous paie pour lire des romans ?» dit-il d'un ton bourru. « Car je parie bien que c'est quelque chose de ce genre que vous lisez en cachette. Voyons. Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Ha ! Par exemple, vous donnez dans ces blagues-là, et vous croyez pas si bête. » Paul sentit une rougeur monter à ses joues. Il allait faire une réponse vive, mais il se contint. « Enfin, dit le patron, toutes les opinions sont libres, mais je n'aime pas les cagots, surtout quand ils se cachent pour faire leur simagrée. Le voilà votre livre, mais que je vous n'y prenne plus. » Paul reprit son Nouveau Testament. Il était humilié et irrité. Paraître manquer de droiture aux yeux d'un juif pour avoir lu l'Évangile. Sa conscience lui disait pourtant que le patron n'avait pas tort, malgré sa brusquerie, puisque le temps de ses employés lui appartenait. 6 heures sonnèrent enfin. Dans 2 heures, là-haut, à Montmartre, s'allumeront les bougies de l'arbre de Noël, et Paul récitera l'histoire des bergers de Bethléem. Avec l'insouciance de son âge, il a presque oublié la scène d'il y a 8 jours. Monsieur Flachon et Lucien n'ont plus eu d'altercation avec le patron qui s'est montré vis-à-vis d'eux comme d'ordinaire. Seulement les deux hommes ont eu des conciliabules à voix basse, surtout dans cette dernière journée. Enfin, M. Lévy appela les deux employés. « Voilà votre argent, » leur dit-il, en comptant à chacun son salaire du mois. « Nous sommes le 24, mais je vous paie le mois entier. Vous n'avez pas besoin de revenir, vos places seront occupées après-demain. Comme après tout, je n'ai pas de graves reproches à vous faire, voici pour chacun de vous un bon certificat. Maintenant, nous ne nous devons plus rien. Bonne chance et au revoir. » Et il tendit sa main froide et sèche aux deux hommes qui firent semblant de ne pas la voir. « Comme vous voudrez, » dit-il, « je ne vous retiens plus. Vous, Paul, restez après ces messieurs, vous m'aiderez à fermer le bureau. » Le comptable et le garçon étaient entrés dans l'arrière-boutique qui servait de vestiaire. Tandis que le premier mettait lentement son pardessus, le second était penché sur une table comme pour chercher un objet perdu. « Eh bien, messieurs, je suis pressé, » dit M. Salomon Lévy avec impatience en saisissant la poignée de la manivelle qui fermait la devanture. « nous partons, » répondit M. Flachon. « Adieu, Paul. Petit poussé, prends garde à l'ogre, » ajouta Lucien. Puis, passant à côté de l'enfant, il lui glissa rapidement quelques mots à l'oreille. « Sors avec nous, prends garde à toi, c'est pour ton bien. » Mais Paul, fidèle à la consigne, fit un signe de tête négatif. « Au revoir, » dit-il, et il vit par la vitrine les deux hommes s'éloigner précipitamment dans la direction des halles. Il se retourna. Une légère odeur de brûlé le saisit aux narines. Le patron tournait paisiblement la manivelle. Le jeune garçon fit un pas vers l'arrière-boutique où brûlait un bec de gaz. Tout à coup, il aperçut sous la petite table une mèche allumée, sortant d'une boîte de fer-blanc. « Une bombe !» Ce mot terrible se présenta aussitôt à son esprit. La mèche était très courte. Elle brûlait bien. Dans quelques secondes, la flamme allait atteindre la boîte. C'était la vengeance des deux misérables. Le premier mouvement de Paul fut de fuir dans la rue par la porte restée grande ouverte. Le patron, il méritait bien ce qui allait lui arriver, et rapide comme l'éclair, son humiliation de la journée lui revint à la mémoire. Mais ce ne fut qu'un éclair. Le sentiment du devoir, de l'honneur, du sacrifice, le sens chrétien, enfin, prit le dessus dans l'âme de l'enfant. Il s'élança vers la table, se baissa, étendit les mains vers l'engin meurtrier. « Sauvez-vous, monsieur! Sauvez-vous! Une bombe » cria-t-il. Au même instant, une détonation se produisit. Pendant quelques secondes, le bureau fut plein de fumée et de la poussière des plâtras tombés de toutes parts. Paul était étendu, sans connaissance, sur le parquet. Monsieur Lévy avait fui dans la rue en poussant des cris affolés. Heureusement, la bombe avait été fabriquée par des novices. En outre, si Paul n'avait pu éteindre la mèche à temps, il avait du moins déplacé l'axe de l'engin qui, éclatant du côté du mur, avait perdu une grande partie de sa puissance destructrice. Lorsque la police étant accourue, on releva le courageux enfant. Il se trouva n'avoir que des contusions sans gravité, produites par la chute des matériaux et de quelques meubles légers qui s'étaient renversés sur lui. Monsieur Salomon Lévy insista pour que Paul fût transporté dans son appartement, où il voulut lui-même lui administrer un cordial. Cet homme n'était plus le même. Ses mains tremblaient en tendant le verre au jeune homme. « C'est bien, petit, c'est bien ce que tu as fait là. Les lâches, ils n'ont pas reculé devant le meurtre d'un innocent comme toi pour se venger. Et toi, tu m'as averti. Tu as risqué ta vie. Tu es un homme. Va, je saurai te récompenser. » Paul ne répondait pas. Un sourire triste errait sur ses lèvres. « Pourtant, ajouta M. Lévy, je n'ai pas été aimable pour toi. Je t'ai souvent grondé. Aujourd'hui encore, pour ce livre que tu lisais. Monsieur, dit enfin Paul, ne parlons plus de cela. J'ai fait mon devoir, mais il s'en est fallu de peu que la peur ne soit la plus forte. J'aurais été lâche, moi aussi, si Jésus ne m'avait secouru au dernier moment. Hein? Oui, ce Jésus dont parle mon livre, c'est lui que j'ai prié et qui m'a rendu capable de me jeter sur la mèche pour l'éteindre, au lieu de me sauver. Bah, tu veux me persuader que Jésus de Nazareth, mort depuis longtemps, t'a donné le courage que tu as eu? Oui, monsieur, sans lui qui est mort pour moi et m'a appris à aimer mon prochain, j'aurais d'abord sauvé ma vie sans penser à la vôtre. Monsieur Lévy était ému. Dans son âme ténébreuse pénétrait un rayon d'une clarté nouvelle. Il y a donc dans le monde d'autres mobiles que l'argent et l'intérêt personnel. L'amour de Dieu et du prochain, idée qu'il eût traité de folie quelques instants auparavant, se présentait maintenant comme une puissance réelle, puisqu'il lui devait l'existence. « Mon enfant, dit-il d'un ton très doux, avec des larmes dans les yeux, il faudra que tu pries pour moi. Je me suis trompé. J'ai manqué ma vie, mes employés ne sont guère plus coupables que moi. Tu me prêteras ton livre. Je veux lire l'histoire de ce Jésus que nos pères ont tué et que vous adorez comme le Messie. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Eh bien, s'il y a un Dieu comme je commence à le croire, peut-être aura-t-il pitié de moi. » Paul ne répondit rien, mais des larmes de joie brillèrent dans son regard. Quelques instants après, le patron le mit dans un fiacre et l'amena chez ses parents. Grand émoi au logis. La fête de Noël fut manquée. Paul ne récita pas sa leçon. Aucun membre de sa famille n'alla voir l'arbre de Noël. Mais après que M. Lévy se fut retiré, en serrant affectueusement la main à tout le monde, et en particulier à son petit sauveur, toute la famille réunie dans l'humble salle à manger courba la tête pour la prière et l'action de grâce que prononça Julie à voix basse, car c'était la première fois qu'elle osait le faire devant ses parents. À ce moment, les anges qui contemplaient cette scène se réjouirent comme jadis au-dessus de la crèche, et ce fut, vous pouvez m'en croire, une belle nuit de Noël.